Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire d'une femme au destin absolument exceptionnel. La reine Elisabeth II. Pas toute son histoire, puisqu'elle règne depuis plus de 65 ans. Mais le début, son enfance de princesse qui n'a strictement aucune chance au départ d'accéder au trône. Son adolescence pendant la guerre sous les bombardements. Et puis le moment où tout bascule pour elle, la mort de son grand-père, le renoncement de son oncle et son couronnement en 1953. Et je m'arrêterai là. Pour écrire cette histoire, je me suis appuyé sur une biographie très complète qui s'appelle Elisabeth II dans l'intimité du règne, que vous trouverez dans la collection Point et qui a été écrite par Isabelle River qui est là avec moi pour le débrief de tout à l'heure. Bonjour à vous.
Bonjour Christophe.
Voici donc ce petit bout d'histoire royale réalisé par Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
L'histoire d'Elisabeth II commence par une scène totalement surannée, qui se déroule quelques heures après sa naissance, le 21 avril 1926. Vers 3h du matin, le ministre de l'Intérieur se présente au domicile de ses parents, le duc et la duchesse d'York, au 17 Bratton Street, à Londres. Il entre, on l'emmène dans la chambre du bébé. Il se penche de manière tout à fait formelle sur le berceau et il constate que l'enfant qui vient de naître est bien la fille du duc et de la duchesse. Alors qu'en vérité, il n'en sait rien du tout. Et l'ayant constaté, il fait envoyer un message au maire de Londres dans lequel il atteste de la naissance d'une nouvelle princesse. Tout ça parce que 3 siècles plus tôt, le roi James avait eu un bébé mort-né et lui avait substitué un autre enfant. Donc, une princesse est née, que l'on baptise tout de suite Elisabeth. Elisabeth Alexandra Mary of York. Mais pour l'instant, c'est juste une princesse qui, sur le papier, a très peu de chances de régner un jour sur l'Angleterre. Car certes, elle est la petite fille du roi George V, mais ça n'est pas son père qui doit lui succéder sur le trône, c'est son oncle. Et c'est donc le futur enfant de son oncle qui sera roi, pas elle. Son baptême a lieu un mois plus tard, avec de l'eau venue tout droit du Jourdain, en Terre Sainte. Et on installe le bébé dans une nursery juste au-dessus de la chambre de ses parents. Et on le confie à 2 nounous écossaises, dont l'une, surnommée Alla, oui j'ai bien dit Alla, a déjà été la nounou de sa maman. Ce sont elles qui vont l'éduquer, en vérité, les nounous écossaises, parce qu'à peine nées, ses parents partent pour un long voyage de plus de 50 000 kilomètres dans l'Empire britannique. L'éducation des nounous écossaises est évidemment un peu rigide. Par exemple, Elisabeth ne peut s'amuser qu'avec un seul jouet à la fois. Si elle en veut un autre, elle doit ranger le premier. Ça laissera des traces. Et tous les jours, on l'emmène prendre l'air frais, dehors. Les repas sont à heure fixe, avec obligation de terminer son assiette. Pas de caprice. Et dès qu'elle a l'âge, après le repas, la princesse doit faire la vaisselle. Assez vite, la petite Elisabeth devient la chouchou de son grand-père, le roi George V. Lui qui ne s'est jamais vraiment occupé de ses propres enfants, devient raide dingue de sa petite fille. Il l'appelle Lilibeth. Un jour, figurez-vous, on le surprend à 4 pattes dans sa chambre, en train de jouer au cheval en hennissant. Alors que la petite Elisabeth l'encourage tout en lui tirant la barbe. « Allez, En août 1930, Elisabeth a 4 ans, arrive une petite sœur, Margaret. Alors que ses parents, honnêtement, auraient préféré un garçon qui serait passé immédiatement devant Elisabeth dans l'ordre de succession. À partir de ses 5 ans, Elisabeth apprend à lire avec sa mère Et pour le reste, on recrute des gouvernantes, dont une Française, pour lui apprendre le français. On lui enseigne aussi l'histoire, la géographie, pas trop l'arithmétique, hein. On se dit qu'elle n'aura pas à faire de compte dans sa vie. L'après-midi, les arts, le lundi cours de danse, le mardi cours de chant, le mercredi dessin et le jeudi musique. Ainsi grandit la jeune princesse Élisabeth, jusqu'à un événement qui va bouleverser sa vie. En 1936, elle a 10 ans, son grand-père, le roi George V, meurt. Et là, il n'y a pas débat. Le roi est mort, vive le roi! Son fils aîné, David, lui succède. L'oncle d'Élisabeth, qui n'était pas le chouchou de son père, il ne l'aimait pas beaucoup. Mais peu importe, il est l'aîné, il devient roi. Et il prend le nom d'Édouard VIII. Et ce jour-là, objectivement, le trône s'éloigne d'Élisabeth. Le roi suivant sera le descendant d'Édouard VIII, qui pour l'instant, à 42 ans, est toujours célibataire. Mais pas pour longtemps. Depuis quelque temps, le roi, qui est plutôt joli garçon, s'est entiché d'une américaine, Wallis Simpson, et il a l'intention de l'épouser. Il va en faire sa reine. Sauf que, d'abord, elle est protestante, et pas anglicane, elle est deux fois divorcée, shocking, mais surtout, elle fréquente les cercles fascistes anglais, eux-mêmes très proches des nazis, et ça, plus le reste, ça ne passe pas. Édouard VIII est à peine couronné que le gouvernement britannique lui fait savoir qu'il est hors de question que cette femme devienne reine.
« Vous allez devoir choisir, Majesté. Ou vous renoncez à Miss Simpson, ou vous abdiquez. »
Et il choisit, figurez-vous, de renoncer au trône. Par amour pour Wallis Simpson. C'est pas beau ? Alors qu'entre nous, il paraît qu'elle n'était pas très amoureuse, mais surtout intéressée. Mais donc Édouard VIII se sacrifie. Et c'est là que la vie de la jeune Élisabeth bascule, parce que qui devient roi à sa place ? Son frère, Albert, le duc d'York, Bertie comme on l'appelle à l'époque, le papa d'Élisabeth, qui ne s'y attendait pas du tout et qui d'ailleurs n'est pas très emballé par l'idée de monter sur le trône. Décidément, quelle famille ! Il faut dire qu'Albert n'a pas vraiment le profil. Il est timide, il est torturé. Et surtout, il est bègue. Alors il freine des cas de fer, il veut pas y aller. Un jour, la petite Élisabeth se cache dans l'escalier avec sa petite sœur et elle entend ses parents qui s'échauffent. Sa mère tente de convaincre son père d'accepter le trône.
You must accept, Bertie. I don't want to be king, darling.
Il doesn't want. Mais il finit par accepter. Et le 12 mai 1936, il monte sur le trône et prend le nom de George VI. Et à partir de là, Élisabeth, 10 ans, comprend qu'elle sera reine. Et donc elle se met à observer son père, de loin, à apprendre les gestes, les attitudes. Et elle le voit souffrir d'ailleurs. Il n'est pas très heureux, le roi George VI, à cause de son bégaiement notamment. Il arrive, grâce à un thérapeute, à le maîtriser un peu, mais quand il doit parler en public... C'est un calvaire. Début 1939, Élisabeth a donc 13 ans. Elle fait la connaissance d'un lointain cousin, Philip de Mountbatten, au cours d'une visite de ses parents, le roi et la reine, au Royal Naval College de Dartmouth. Philip a 18 ans, il est l'un des élèves, il est grand, il est blond comme un viking, il a les yeux bleu perçant, et pendant toute la visite, elle ne le quitte pas des yeux. Il lui a tapé dans l'œil, alors qu'il a 5 ans de plus. 18 ans. Elle dira plus tard, j'ai su tout de suite qu'il était l'homme de ma vie. Mais l'époque n'est pas aux amourettes. 3 ans après le sacre de George VI, en 1939, la guerre éclate. Élisabeth a donc 13 ans. 1 an plus tard, Londres se retrouve pilonné par l'aviation allemande. Churchill propose à la famille royale d'aller trouver refuge au Canada.
Ce serait plus prudent. Vous serez à l'abri des bombardements.
Mais la reine refuse catégoriquement.
Mes enfants ne partiront pas sans moi. Et moi, je ne partirai pas sans le roi. Et le roi ne quittera jamais son pays.
Néanmoins, la famille royale accepte de se replier au château de Windsor, où les caves peuvent servir d'abri contre les bombardements. Et tous les jours, le roi et la reine vont à Londres. Et normalement, ils rentrent le soir. Mais quand les bombardements s'intensifient, souvent, ils restent à Londres et Elizabeth et sa petite sœur Margaret se retrouvent seules à Windsor avec leur gouvernante. Et en octobre 1940, Elizabeth a 14 ans et on lui demande pour la première fois d'adresser via la BBC un message aux enfants d'Angleterre pour leur remonter le moral.
Vous êtes des milliers dans ce pays à avoir dû quitter vos maisons et à vous retrouver séparés de vos pères et de vos mères. Ma sœur Margaret et moi-même, nous compatissons, car nous savons par expérience comment il est dur d'être loin de ceux que nous aimons le plus au monde. Chacun de nous sait que tout se terminera bien, car Dieu veillera sur nous et nous donnera la victoire et la paix. Et lorsque reviendra la paix, souvenez-vous qu'il nous appartiendra, à nous les enfants d'aujourd'hui, de faire du monde de demain un monde meilleur et plus heureux.
Elle s'en est bien sortie. 14 ans. Pendant toute la guerre, la princesse Elisabeth verse la moitié de son argent de poche, 5 shillings par semaine, à des œuvres de charité. Rien à dire. En 1942, elle a donc 16 ans, elle intègre l'armée, avec le grade de colonel en chef. Elle ne fait pas la guerre, bien sûr. Elle passe en revue la garde dans la cour du château de Windsor. Mais dans les derniers mois de la guerre, elle intègre l'armée, la vraie, la branche féminine, et donc elle va sur le terrain. Et elle apprend à monter et à démonter des moteurs de camions, et à conduire des engins militaires. Et après la guerre, réapparaît le prince charmant, Philippe de Mountbatten. En vérité, ils ne se sont jamais perdus de vue. Pendant toute la guerre, ils se sont écrits. Mais maintenant, elle veut l'épouser. Et c'est pas gagné. D'abord, il n'est pas britannique, il est grec et orthodoxe. Ensuite, il est fauché comme les blés, il n'a même pas de maison. Mais surtout, il a des origines germaniques. Et ses 4 sœurs ont épousé des nazis très proches d'Hitler. Et enfin, il a 5 ans de plus qu'elle et elle tout juste 20 ans. Et donc, le roi et la reine lui demandent d'attendre. Alors elle attend. Entre-temps, Philippe obtient la nationalité anglaise, il se convertit à la religion anglicane. Et en juillet 1947, ils finissent par se fiancer. Et 4 mois plus tard, ils se marient à l'abbaye de Westminster. Et au passage, il devient duc d'Édimbourg. Et leur premier voyage officiel à l'étranger a lieu en France, à Paris, en mai 1948. Un soir, ils vont dans un nightclub près des Champs-Élysées, chez Carrère. Et pour l'honorer, Édith Piaf vient chanter à sa table.
Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
Ce jour-là, personne ne l'a remarqué. Mais Elisabeth ne boit pas une seule goutte d'alcool. Elle est enceinte de 3 mois, Charles. Et 2 ans plus tard, en août 1950, elle donne le jour à une petite fille, Anne. En février 1952, la princesse Elisabeth, qui a maintenant 26 ans, entreprend avec son mari Philippe, le duc d'Édimbourg, un voyage en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et en chemin, la route est longue à l'époque. Ils font étape dans l'une de leurs colonies, le Kenya. Alors arrivés à Nairobi, ils sont accueillis par les dignitaires locaux et ils partent en safari pour 2 jours, dans la région du Mont Kenya, dans un hôtel qui s'appelle le Tree Top, dans lequel on leur a réservé une chambre absolument exceptionnelle. Un bungalow, une cabane juchée sur un gros figuier, avec vue sur la savane.
Oh Philippe, tu as vu les éléphants là-bas? Regarde à droite, regarde le troupeau de rhinocéros. Oh, comme je regrette que papa ne soit pas là.
La princesse a une petite caméra. Elle filme tout ce qui bouge. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que quand elle descendra de cet arbre, tout à l'heure, elle sera reine. Car à 10 000 km de là, la BBC vient de l'annoncer, une terrible nouvelle. Son père, le roi George VI, est mort.
It is with the greatest sorrow that we make the following announcement. It was announced from Sandringham at 10:45 today, February the 6th, 1952, that the king, who retired to rest last night in his usual health, passed peacefully away in his sleep.
C'était un gros fumeur. On savait qu'il avait un cancer du poumon. Il est rentré de la chasse, épuisé. Il s'est couché tôt. Le lendemain matin, vers 7h30, son valet est allé frapper à sa porte.
Her Majesty! Her Majesty!
Il est entré. Et il l'a trouvé mort, infarctus, à 56 ans. Tout de suite, le palais de Buckingham envoie un message codé à Nairobi, au siège de l'administration coloniale. Mais pour le lire, l'employé qui le reçoit a besoin d'un code. Et le code est enfermé dans un coffre-fort. Et il ne trouve pas la clé.
Mais qu'est-ce que j'ai fichu de cette fichue clé?
Et ça dure. Toute l'Angleterre est au courant, mais pas la princesse, pas sa fille. Finalement, on trouve le code. Et vers 13h30, ça fait 6 heures que le roi a été retrouvé mort. On prévient, non pas la princesse, mais son mari Philippe. Pour lui annoncer la nouvelle, Philippe l'emmène marcher dans le jardin de l'hôtel. Et après quelques circonvolutions...
Ma chère, votre père, le roi George VI, est mort.
Le visage de la princesse se crispe, ses yeux se remplissent de larmes, elle se mord les lèvres, mais elle ne pleure pas. Comme disait son arrière-arrière-grand-mère, la reine Victoria, « Never explain, never complain », ne jamais se justifier, ne jamais se plaindre. On lui a appris à ne pas pleurer en public, depuis toute petite. Évidemment, le couple princier annule la suite du voyage et rentre tout de suite à Londres. Ils atterrissent à l'aéroport d'Heathrow. Le premier ministre Winston Churchill est là, tout en noir, et avec lui tout le gouvernement. La porte de l'avion s'ouvre et la future reine, robe noire et chapeau noir, apparaît. Et ce qui est incroyable, c'est qu'une fois de plus, elle ne pleure pas. Quand elle serre la main de Churchill, elle affiche même un petit sourire. Elle se tient déjà comme une reine. Et on lui demande « Sous quel nom souhaitez-vous régner ?»«
Oh, mais le mien! Pourquoi en prendre un autre ?»
Elle sera donc la reine Élisabeth II, car il y a déjà eu une reine Élisabeth il y a 400 ans. La date du couronnement est fixée au 2 juin 1953. Le prince Philippe est chargé de l'organisation. Il est question d'un défilé aérien. Le prince met l'aviation britannique en garde.
« Attention, messieurs! Si vous faites passer les avions à la verticale, la reine ne pourra pas les regarder sans faire tomber sa couronne. »
La BBC propose de retransmettre l'événement en direct. Au début, tout le monde s'y oppose, à commencer par le premier ministre Winston Churchill.
« Mais enfin, Nous ne pouvons pas aveugler la souveraine avec des lumières trop vives, trop brûlantes.
L'église anglicane non plus n'est pas emballée.
Si les gens regardent le sacre à la télévision, chez eux, dans leur salon, en mangeant des sandwichs, la cérémonie perdra tout son sens divin.
Mais finalement, on finit par autoriser les caméras à l'intérieur de l'abbaye de Westminster. La future reine refuse juste que l'on filme le moment où l'archevêque de Canterbury va pratiquer l'onction suprême. Pour la première fois donc, un couronnement sera retransmis en direct dans 5 pays européens. Élisabeth a choisi sa robe, blanche, absolument identique à celle de son mariage, si ce n'est les broderies qui représentent toutes les provinces du Royaume-Uni. 2 semaines avant le couronnement, on procède à des répétitions. À Westminster, Elisabeth y va 3-4 fois, et dans la salle de bal du palais de Buckingham, où Elisabeth, avec un drap sur les épaules pour simuler sa traîne, s'applique à répéter les gestes et les placements. Et à porter la couronne, parce qu'elle pèse 2 kilos d'or et de pierres précieuses. Il ne faudra pas qu'elle la fasse tomber. Et arrive le grand jour. Dès l'aube, la foule envahit les rues de Londres pour voir passer le carrosse, énorme tarte à la crème de 7 mètres de long qui emmène Elisabeth vers l'abbaye de Westminster. À l'intérieur de l'abbaye, on prit place tout ce que la planète compte de chefs d'État, de rois, de reines, de princesses, de princes, de ducs, de duchesses et tout le toutim. La reine-mère et Margaret arrivent à 10h30. On n'attend plus qu'Elisabeth et... La voilà. Avant de pénétrer sous les voûtes de Westminster, elle vérifie l'ajustement de sa traîne. Elle se tourne vers ses demoiselles d'honneur en souriant.
All right, girls.
Elisabeth arrive devant l'autel. Elle prête serment par écrit de servir son pays et ses sujets. Et puis elle s'avance vers la chaise du roi Edward, sur laquelle depuis 1308, tous les rois d'Angleterre ou presque ont reçu l'onction suprême. Elle s'assoit. On dresse au-dessus d'elle un baldaquin, car personne ne doit voir ce qui va se passer maintenant. Et surtout pas les caméras. L'onction, c'est par ce geste qu'elle va devenir reine. À l'ombre du baldaquin, l'archevêque de Canterbury se saisit d'une petite cuillère en argent. Il y verse quelques gouttes de Saint-Crème, l'huile sainte. Il y plonge 2 doigts et il trace une croix sur sa tête, sur sa poitrine et sur la paume de ses 2 mains.
Comme Salomon a été sacré roi par le prêtre Zadok et le prophète Nathan, sois sacré, béni et consacré reine des peuples que le Seigneur ton Dieu t'a donné à diriger et à gouverner.
On lui remet ensuite les insignes de la royauté, une épée, 2 sceptres et 2 bracelets. Et l'archevêque pose sur sa tête la couronne de Saint-Édouard. Elisabeth va s'asseoir sur le trône et un à un, les princes et les pairs du royaume, son mari le duc d'Édimbourg en tête, viennent lui prêter allégeance à genoux. Elisabeth est reine et pour longtemps. Et pour la première fois de l'histoire du monde, 27 millions d'Européens ont suivi son couronnement en direct à la télévision. Voilà donc ce petit bout d'histoire d'Elisabeth II d'Angleterre tiré de la biographie d'Isabelle Rivère, Elisabeth II dans l'intimité du règne qu'on retrouve dans la collection Point. Alors Isabelle, on va reprendre les choses un peu à leur début, peut-être commencer par la naissance, parce que si on réfléchit bien, au fond, quand elle naît, Elisabeth se trouve dans la position de l'enfant du prince Harry et de Meghan Markle aujourd'hui.
Oui, c'est à peu près ça. Oui, c'est assez juste ce que vous dites, Christophe. Elle n'est pas du tout destinée au trône, puisqu'effectivement, avant elle, il y a son oncle, le futur qui régnera un jour sous le nom d'Édouard VIII. Et même si son oncle devait ne jamais se marier ou ne jamais avoir d'enfant, bon, effectivement, ce serait son père qui accéderait au trône de ses ancêtres. Mais cette éventualité-là paraît à l'époque complètement
impossible. D'ailleurs, c'est intéressant. Est-ce que d'après vous, dans la tête de Harry, aujourd'hui, reste l'hypothèse que peut-être un jour William n'ira pas et ce sera lui.
Alors,
est-ce qu'ils doivent y penser toute leur vie, au fond ?
Alors, ce qui est à peu près sûr, c'est que le prince Harry n'a aucune envie de régner, qu'il est assez content que son frère soit destiné au trône de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à sa place. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'effectivement, dans l'histoire de la monarchie britannique, il y a beaucoup de numéros 2 qui ont fini par devenir rois, alors que rien ne les y destinait.
Elisabeth avait envie, elle, ou pas ? Parce que son oncle et son père n'avaient pas envie.
Aucun des deux, effectivement, n'avait envie. Il faut savoir que c'est quand même un destin très particulier, un métier, parce que régner c'est un métier d'une solitude inouïe dont seule la mort finalement peut vous relever. Ça n'est pas forcément un destin très enviable. Les princes de sang sont bien placés pour le savoir. Mais Elisabeth, la future Elisabeth II, elle, enfant en tout cas, est déjà dans une espèce d'acceptation calme, sereine de cette inéluctable destinée. En revanche, il y a quand même une petite part en elle qui conserve une espèce d'aspiration à une forme de liberté. On sait qu'enfant, elle rêve de vivre dans une ferme avec une famille nombreuse, entourée de chiens, de chevaux. Et j'ai rencontré plusieurs membres de sa famille qui m'ont dit que, effectivement, enfant et adolescente même, elle priait tous les soirs pour que Dieu lui donne un petit frère. Parce que si elle avait eu un petit frère, il l'aurait effectivement supplanté dans l'ordre de succession.
Ce qui ne serait pas le cas aujourd'hui, ou si ?
Non, alors ce ne serait pas le cas aujourd'hui, puisque l'égalité...
Aujourd'hui, si la femme est en premier, elle est en premier. Point.
Elle est en premier, oui.
Alors, son enfance, on est assez surpris de découvrir qu'elle fait la vaisselle.
Oui, alors on est assez surpris effectivement de se dire qu'une princesse de sang appelée à devenir une des reines les plus illustres de toute l'histoire des monarchies modernes faisait la vaisselle lorsqu'elle était enfant. Mais alors ça... C'était probablement dû à l'éducation de ses nurses écossaises, mais c'était aussi dû à l'éducation de sa mère, qui pensait qu'effectivement, Élisabeth ne devant jamais régner, eh bien, elle serait amenée tout de même à remplir de temps en temps des tâches ménagères. Et c'est un goût pour les tâches ménagères qu'Élisabeth a gardé jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup d'invités, notamment pendant les vacances d'été au château de Balmoral en Écosse, lorsque la famille royale emmène ses invités dans des parties
qu'elle fait la vaisselle,
de pique-nique. Mais si la reine fait elle-même la vaisselle, et l'une des personnes qui a les plus surprises, enfin en tout cas qui en avait beaucoup abondamment parlé, c'était son ancienne première ministre Margaret Thatcher, qui avait été presque choquée de voir la souveraine empoigner une paire de gants en caoutchouc et plonger ses mains dans l'évier. Et elle avait proposé de faire la vaisselle à sa place et la reine lui avait répondu très sérieusement « Je lave, vous essuyez ».
Ah, j'adore. J'en rêvais de la fin de cette histoire. Je veux qu'on revienne sur ce moment où l'oncle d'Elisabeth, qui s'appelle Édouard VIII, renonce au trône d'Angleterre pour épouser une femme, une américaine qui s'appelle Wallis Simpson et dont j'ai dit que sans doute elle n'était pas très amoureuse de lui mais plutôt intéressée. Vous savez ce qu'il est advenu de ce couple finalement ?
Alors effectivement, Wallis à l'époque n'est pas amoureuse de son futur mari, en tout cas pas aussi amoureuse qu'il est amoureux d'elle. Wallis est une femme, on l'a beaucoup décrite comme sous les traits d'une aventurière. Ça n'est pas vraiment une aventurière, c'est plutôt une femme qui s'est laissée emportée finalement par une idylle dont elle n'a absolument pas anticipé les conséquences. Elle s'était toujours rêvée en femme de l'ombre. Elle aurait volontiers vu en fait son futur mari accéder au trône et elle se serait volontiers vue en conseillère en fait.
En conseillère plutôt. De l'ombre.
Elle le voyait plutôt le seconder dans sa tâche. Et puis il y a cette abdication à laquelle elle assiste à distance. Elle entend le discours de cet homme qu'il prononce à la radio dans lequel il renonce au trône par amour, parce qu'elle est là, parce qu'elle est entrée dans sa vie, parce qu'il ne peut plus se passer d'elle.
Me dites pas qu'elle l'a lâché après.
Elle ne l'a pas lâché après, non, ils se sont mariés en France, au château de Condé. Mais en fait, l'histoire de ce couple, ils deviennent duc et duchesse de Windsor, puisque effectivement, lui n'est plus roi, et Wallis n'aura jamais le titre d'altesse royale. Mais ça va être tout de même une vie assez vide de sens, en fait. Et pour l'un et pour l'autre, une vie assez triste, oui.
Malheureusement. Donc, c'est le père d'Elisabeth, Bertie, qui devient George VI, le nouveau roi. Et j'ai trouvé vraiment son destin assez touchant, notamment son bégaiement. J'ai raconté ici récemment l'histoire d'un bégaiement. J'ai parfaitement compris à quel point c'est un handicap terrible. Et lorsqu'on est roi, on doit prononcer en permanence des discours. Il a énormément souffert de ça.
Il a énormément souffert et lorsqu'il apprend la décision d'abdiquer de son frère est irrémédiable, la première chose qu'il fait, c'est se précipiter chez sa mère, la reine Marie, et il va sangloter comme un enfant sur son épaule en lui disant je ne suis pas fait pour être roi, jamais je n'y arriverai. Et d'ailleurs, il n'est pas seul à douter, puisque dans son entourage, il y a beaucoup d'officiels, de membres du gouvernement qui doutent de ses capacités à assumer cette tâche qui est une tâche difficile, surtout qu'on est déjà au milieu des années 30. Que beaucoup de nuages très très sombres s'accumulent en fait au-dessus de l'Europe. Mais c'est un homme qui va être paradoxalement révélé finalement par cette tâche de souverain. Il finira par surmonter plus ou moins ce bégaiement avec l'aide d'un thérapeute. Mais surtout, je pense que les difficultés qu'il va rencontrer, notamment après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en 1939, vont en quelque sorte le transcender. Et effectivement, George VI va devenir un grand roi.
Alors la guerre est l'occasion d'une expérience assez intéressante qui est une grande première mondiale. C'est la première fois qu'une future reine va s'adresser à la radio via la BBC aux enfants du peuple britannique.
Oui, il faut se souvenir qu'à l'époque, on évacue les enfants des grandes villes pour les protéger des éventuels bombardements allemands.
Et elle enregistre ce très joli message.
Elle enregistre ce très joli message. Alors, il y a quelque chose de très spontané, de très sincère, de très généreux dans sa démarche. Il y a aussi de la part du gouvernement britannique...
Une stratégie, oui.
Oui, une stratégie.
On lui écrit son texte.
On lui écrit son texte et on utilise l'image à la fois ravissante et ultra patriotique de ces deux jeunes princesses, Elisabeth et Margaret, qui sont elles aussi le plus clair du temps, séparées de leurs parents, puisqu'elles sont au château de Windsor et que leurs parents, eux, sont à Londres où leur métier de roi et de reine les accapare. Effectivement, il y a les deux aspects dans ce discours. Il y a quelque chose aussi très émouvant, très touchant. Et à la fin du message, elle invite sa sœur, la princesse Margaret, qui est toute petite à l'époque, à s'adresser à son tour aux enfants. Et on entend Margaret leur dire « Good night, children ». Enfin, il y a quelque chose de très enfantin, de très émouvant. En tout cas, moi, c'est vrai que ce message me touche beaucoup.
Il faut qu'on parle du mariage avec Philippe de Mountbatten. Et je me suis dit d'ailleurs, en relisant l'histoire de ce mariage, que finalement, elle avait elle aussi, un peu comme Charles quand il épouse sa Camilla, épousé quelqu'un qui n'était pas fréquentable en vérité. Il était grec, il était orthodoxe et il était fauché. Il est arrivé en Angleterre sur un bateau, en dormant dans la cale, sur les palettes de marchandises
oui,
qui étaient dans le bateau.
Effectivement, sa famille a été contrainte à l'exil au début des années 20. Et donc, effectivement, Philippe est arrivé bébé en Grande-Bretagne avec pour tout berceau, en fait, le cajot d'orange dans lequel il avait effectué la traversée à bord d'un navire militaire. C'est effectivement un prince désargenté, un prince quasiment sans famille, puisque ses parents se sont séparés très tôt.
Mais grande famille.
Oui, oui, mais...
Il n'a que ça.
Oui, il est quasiment orphelin. Il est sans le sou. On l'appelle le prince sans domicile fixe, mais il est aussi apparenté à la reine Victoria, au tsar Nicolas Ier de Russie, en réalité aux plus grandes familles royales et impériales d'Europe. Alors effectivement...
Ça sauve tout, quoi. Alors, il y a quelque chose que je crois avoir compris. C'est qu'en gros, jusqu'au couronnement, le patron du couple, c'est lui.
Oui.
Et dans la seconde où elle met la couronne sur sa tête, la chef, ça devient elle. Et lui, il n'a pas d'autre choix que de s'effacer.
Le jour du couronnement, il y a quand même cette scène qui est très frappante, qui marque beaucoup les esprits. C'est la scène où Philippe s'agenouille devant sa femme et les mains entre les siennes lui promet d'être son vassal. Donc, effectivement, à partir du moment où Elisabeth devient reine, Philippe devient son sujet. Pour lui, c'est une catastrophe parce qu'il sait que sa vie bascule, mais pour elle, c'est également un basculement absolument total.
Oui, elle accepte de prendre l'ascendant dans ce couple. Alors, il y a un épisode qui, je pense, a dû considérablement le toucher. Il dit, enfin, je suis le premier homme qui ne peut pas transmettre son nom à ses enfants.
Oui, mais il y a des considérations historiques à prendre en compte. C'est vrai que la maison Windsor a été créée en 1917 par le roi George V pendant la Première Guerre mondiale, de manière à faire oublier les origines germaniques de la famille régnante de Grande-Bretagne, même si le nom de Mountbatten est en fait une anglicisation du nom de Battenberg, qui est le nom d'origine de la famille.
Qui lui aussi est un peu germanique.
Qui est absolument germanique. Mais il y a surtout, en fait, dans toutes les monarchies, une volonté de continuité. On s'inscrit dans une continuité. Changer le nom de la famille régnante à l'époque, c'est un pas que personne n'a envie de franchir. Et puis, à l'époque, Elisabeth est reine, certes, mais elle est aussi encore une jeune femme qui a du mal à s'affirmer, qui a du mal à dire les choses à son mari et qui est aussi sous l'emprise encore de sa mère, à qui elle demande très régulièrement conseil, et de son premier ministre aussi, Winston Churchill, auprès duquel elle apprend le métier de reine. Et aussi bien sa mère que Winston Churchill sont fermement opposés à ce que la maison Windsor change de nom.
Alors, ça doit suffisamment l'énerver pour que quelques années plus tard, tout de même, il obtienne que le nom final de cette famille soit Windsor Mountbatten.
Oui, il l'obtiendra sur le tard, enfin
Donc
des années plus tard.
Donc Charles s'appelle Windsor Mountbatten. William et Harry s'appellent Windsor Mountbatten.
En fait, le nom de Windsor, de Mountbatten Windsor s'applique plutôt aux membres de la famille...
Derrière,
oui,
pas
c'est
la première
ça.
Ligne.
Non.
Le choix du nom de reine. Elle dit « je vais prendre mon prénom ». Mais en vérité, est-ce que on avait choisi son prénom pour qu'il soit à usage de reine ?
Non, sa mère s'appelait Elisabeth. Donc on décide d'appeler la fillette Elisabeth en fait en hommage à sa mère. Finalement. Elisabeth choisit par fidélité aussi à sa mère, je pense, de régner sous le nom d'Elisabeth II, c'est-à-dire de ne pas changer de prénom. Elle aurait eu le droit de changer de prénom, de régner sous un tout autre nom.
On choisit le nom qu'on veut, on est d'accord.
On choisit le nom que l'on veut. Mais en fait, c'est vrai qu'elle n'aimera jamais être Winston Churchill, par exemple, au moment du couronnement, au moment de l'accession au trône de la jeune femme, rappelle la glorieuse ère élisabéthaine qu'avait connue le royaume au temps d'Elisabeth Ier. Mais Elisabeth Ier est une figure prestigieuse et historique à laquelle Elisabeth II n'a jamais aimé être comparée parce qu'elle a toujours trouvé Elisabeth Ier despotique. Elle a toujours trouvé qu'elle n'avait aucun point commun. Elisabeth Ier ne s'est jamais mariée. C'est une reine qui n'a jamais voyagé alors qu'Elisabeth II, elle, a accompli plusieurs fois le tour du monde.
J'ai adoré évidemment la discussion autour de faut-il ou ne faut-il pas mettre des caméras de télé à Westminster pour le couronnement. Je voudrais vous poser une question d'après vous. Lors du prochain couronnement, celui de Charles sans doute, comme roi d'Angleterre, on sera autorisé à filmer l'onction suprême, non ?
Ça n'est pas sûr, ça n'est pas certain. Il y a beaucoup de questions qui se posent actuellement sur le couronnement du futur, alors soit Charles III, soit George VII, puisqu'on ne sait toujours pas sous quel nom il choisira de régner. Il est probable que ce sera une cérémonie, ce qu'ils appellent un peu plus, enfin low-key, en tout cas modernisé, qui ne sera pas à aussi grand spectacle que l'a été le couronnement de 1953. Mais c'est vrai que ce moment sacré, parce qu'on dit que le couronnement est une espèce de rite magique qui fait d'un homme un dieu. Ce moment où l'archevêque de Canterbury oint le front, les mains et la poitrine du nouveau souverain garde un caractère extrêmement sacré. Moi, je ne suis pas sûre que ce moment-là sera filmé.
Qu'on enlèvera le baldaquin ?
C'est pas sûr du tout.
On fait un pari.
Oui, si vous voulez.
Les pressions de la BBC, d'après vous. Merci beaucoup Isabelle
Rivière. Merci à vous.
Je renvoie nos auditeurs à ce livre extrêmement complet, dont je n'ai tiré que 2%, qui s'appelle Elisabeth II, dans l'intimité du règne, que vous trouvez aujourd'hui dans la collection de Poche. Point.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.